a cidade.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum Robin, Dastrich et la participation exceptionnelle de JB.
Il est pratiquement midi 7 sur la pendule de Radio FMR. Bonjour. Ouais.
Et salut du sport,
salut,
la forme.
Salut Thomas. Alors, notre boss à tous et maître incontesté de ce week-end n'est pas là, hein, et c'est pour ça qu'on va pouvoir faire une émission tranquille, voilà. Sans se faire interrompre.
Et comme d'habitude, quand il n'est pas là, nous parlons de bande dessinée.
Ah ouais, c'est logique, mais pas que. Mais pas que. Il y a un retour aux rubriques habituelles avec la télé en fin d'émission.
Alors c'est marrant parce que à deux, on n'a pas été fichus de se passer un conducteur. Donc je ne sais pas du tout de quoi tu vas parler. Tu ne sais pas du tout de quoi je vais parler.
Non.
C'est une émission surprise même pour nous amis auditeurs.
Yes.
Donc un retour aux habitudes, aux bonnes habitudes de l'émission classique, puisque ça faisait quelques semaines, voire même un mois entier où on avait fait pas mal d'émissions en extérieur. Donc là, on reprend notre rythme pépère seulement avec deux animateurs du supplément week-end. Voilà, donc on voulait recevoir les organisateurs du Toulouse Game Show, puisque nous étions au TGS, pas en direct cette fois-ci, la semaine dernière, pour enregistrer des sujets audio. Nous espérons les avoir au micro de cette antenne la semaine prochaine.
Voilà, parce que bon, bah le TGS c'était la semaine dernière, le week-end dernier, donc ils sont encore un petit peu en débriefing et ils règlent les derniers trucs hein, d'après TGS. Donc peut-être qu'à tête reposée la semaine prochaine, ce sera plus possible. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour savoir un petit peu ce qui s'est passé au niveau du TGS. Sinon, on peut dire deux mots quand même hein, de
oui.
Ce TGS. Nouvelle formule, nouvel emballage on va dire, hein, puisque bon bah les années passées, les années précédentes depuis le départ, c'était à la Beige, Diagora, Agora. Mais là, bien ça a basculé centre-ville au Parc des Expos. C'était un petit peu bordélique pour y arriver.
C'était chaud, on va
simple.
Dire. Oui.
Il y avait une grosse queue. Il y a des choses qu'il va falloir revoir, je pense, pour l'année prochaine. Ils se sont déjà penchés sur la chose.
Je pense qu'il va falloir multiplier les caisses et embaucher quelques nanas pour encaisser les ventes sur place. Hein, voilà.
Ouais. Je pense que c'est à ce niveau-là que il y avait une bonne défaillance. Hein,
Oui, on peut dire qu'à 10h du matin, 3h30 de queue dans le froid de décembre, plus des voitures garées jusque sur la bande d'arrêt d'urgence du périph. Je pense qu'on peut dire qu'il y avait engorgement.
Tout à fait. Ouais. Et pourtant, bon bah, j'avais bien précisé à tous les gens que je connaissais, n'y allez pas en voiture.
Oui.
C'est pas la peine, c'est un petit peu idiot. Il y a une station de métro juste à côté. Hein, vraiment quoi, faut vraiment bon bah enfin bon donc la semaine prochaine de toute façon pour le TGS on démarre à la limite tout de suite avec une petite bande dessinée, qu'est-ce que t'en penses?
Eh ben écoute, oui, par quoi on commence? On commence par ton petit comics?
Oui, parce qu'en plus je tire, ça fait quand même trois semaines que je l'ai lu, donc je me rappelle pas bien de ce qu'il y a dedans. Et j'ai pas eu le temps de refeuilleter vite fait quoi. Alors The Boys, c'est le numéro 16 et ça s'appelle Comme à la fête foraine. Alors bon, ils tirent pas les pigeons, pas encore, mais enfin on va dire que c'est le début de la fin. Hein, parce que là, eh bien, le découpage américain est un petit peu différent, si vous voulez, parce que nous, ben, on a quand même droit à 4 histoires par tome, alors que du côté américain, lors de sa parution, eh bien, c'est un petit peu plus serré dans le temps, mais c'est chaque fois un petit numéro, donc un petit peu moins de pages. Et comme il y a 4 numéros, on en est au numéro 56 jusqu'au numéro 59, donc, hein, eh bien, il y en a 70 de prévus. ce qui fait qu'il va rester environ 2 tomes d'ici la fin. Et là, ben, si dans les tomes précédents, on va dire, hein, si dans le 15, le 14, le 13, ben, on s'attachait un petit peu à peaufiner, on va dire, la provenance des personnages, en particulier, bah, ce qui a donné, ce qui a généré un petit peu toute cette aventure, c'est-à-dire le vote américain, c'est-à-dire le protecteur, c'est-à-dire les origines un petit peu, hein, et bah, ce qu'on ne savait pas, les non-dits à propos de Billy Butcher, hein, qui est le patron de cette équipe de petits gars, des boys, donc. Eh bien, là, il faut quand même. On se disait bon, bah, ok, c'est passionnant, c'est pas mal, comme d'habitude. Hein, c'est du Garth Ennis quand même, quoi, avec Russ Bourne au dessin. Mais bon, il y avait pas trop de, il y avait pas le.
C'était un ronronnement de
voilà, tomes. Voilà, même. C'est ça. Hein, c'est-à-dire, il y avait pas les fights, les ouais. L'action, on va dire, à laquelle on était habitué depuis
et,
le départ.
Et même le second degré, on va dire assez choquant, même était vraiment relativement absent depuis 4 tomes à peu près.
Oui, hein. C'est ça. Hein, c'est-à-dire ouais. qu'on se concentrait sur l'essentiel, sur l'histoire, sur les bases, sur les fondements de ce qui amène, bien justement, à ce qui se passe dans le présent, hein, dans le présent des boys. Mais bon, c'est vrai que c'était un petit peu plus sérieux. Un petit peu moins, dire à la limite des fois Portnawak quoi.
Oui et puis c'est, et puis très 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 dense. Moi je pouvais pas le lire d'une traite par exemple. C'était vraiment il fallait s'accrocher. Il y avait beaucoup de bulles, beaucoup de textes.
Tout à fait. Hein, oui. Bon bah là ça continue un petit peu dans la même veine de toute façon. Mais vu l'histoire, eh bien en même temps il y a plus ou moins un petit règlement de compte, on va dire amical, hein, entre quelques membres du groupe. On se rend compte qu'ils sont pas si potes les uns avec les autres, oui, même s'ils ont une histoire commune. On se rend compte que bon bah les affinités c'est pas tellement ça.
On voit que la crème a quelques inimitiés avec quelques-uns.
Beaucoup d'inimitiés. Ouais. Ça continue justement dans ce numéro 16, bien que la crème reste un petit peu à l'écart hein, dans cette aventure. Mais il y a à nouveau eh bien ce qu'on attend depuis le début, c'est-à-dire ce qu'on a vu depuis le début et ce qu'on attend justement, c'est-à-dire l'affrontement final, le fight entre les boys et les sept. Et là bah il y a un petit truc qui arrive et là à un moment donné c'est très court mais on se rend compte que le big boss des sept en fait n'est pas la brute décérébrée qu'on croit qu'elle est.
Ah ouais.
Depuis le départ on se rend compte que bah peut-être que derrière il y a quelque chose mais on sait pas encore.
Enfin, hein, il faut quand même qu'il nous convainque de ça parce que vu toutes les saloperies qu'il a fait dans les précédents tomes, il va falloir qu'il s'accroche pour vraiment nous faire changer de camp quand même. Hein. Parce que là,
il n'est pas question de changer de ouais. camp, mais on se rend compte qu'il est bon, peut-être un petit peu plus intéressant comme personnage que le grand super vilain, le super méchant qu'il est, qui a des motivations relativement simplistes. Ben non, peut-être pas. Peut-être pas. Hein, donc c'est ce qui fait également le charme de The Boys. Hein, de toute façon, quoi. Il y a pas de gris.
Il y a pas de noir, de
voilà,
blanc.
Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a des sous-entendus. On sait pas. On sait pas. Il y a pas de truc vraiment assis, vraiment sûr. En tout cas, bon, l'affrontement final. On peut dire que ça commence un petit peu. Hein, et bah bien entendu, c'est un des membres des sept qui est visé. Mais un des membres des sept, c'est Jack de Jupiter, hein, d'ailleurs, que tu vois là. Et qui bah a commis quelques petits trucs et d'ailleurs il est carrément sorti des rails mais du côté du code de conduite que se sont instaurés les sept à la suite de toutes les aventures qui sont arrivées après les rogasmes et tout ils se sont dit bon on va se recentrer un petit peu hein, enfin surtout le boss mais on se rend compte qu'il y en a qui en ont rien à foutre quand même qui font quand même que des conneries quoi.
Oui.
Et bon bah quand ils font des conneries qui s'en occupent hein, ça c'était le gimmick hein, ils dépassent les bornes donc les boys s'en occupent un tout petit peu quoi. Et bon bah comme d'habitude alors il y a beaucoup de sexe hein, il y a là dans celui-là pas mal et
il rattrape le retard. Ouais.
Alors bon, je peux te le dévoiler quoi d'ailleurs tu vois un petit peu les petites bosses des nanas qui
oh non
sont pas,
non
eh si eh si si
alors on parle si, ouais si. D'accord
OK tu comprends où je veux en venir.
Oui.
Il y a parallèlement à ça encore des révélations dans l'univers personnel de Petit Yugi par rapport à Stella.
Encore.
Ils sont plus ou moins de nouveau ensemble, on va dire.
Ouais, et en fait, ils se sont dévoilés chacun leur part d'ombre. Là, voilà. Dans le dernier tome, il lui avoue que il fait partie d'une catégorie de personnes qui surveillent les sept.
Voilà, c'est ouais. ça. Hein. Il révèle pas tout. Hein, ouais. Elle lui dit tout. Ouais, oui. C'est-à-dire, elle lui dit voilà, je suis ça. Mais le problème, c'est que Billy Butcher, il va enfoncer le bouchon en montrant à Piyugi des trucs qu'il aurait pas dû lui montrer.
Ah.
En fait.
Oui, c'est champion pour ça.
Ouais, c'est champion pour ça. C'est-à-dire que parce que petit Yugi revient, hein, petit Yugi était parti pendant 2-3 tomes, quoi. On savait pas trop, quoi. D'abord, quand il revient, il va sur la Californie pour voir quel est, le rôle de Mallory, c'est-à-dire le type qui a mis en place Billy Butcher.
Oui.
Hein, qui l'a un petit peu,
avec un cliffhanger à la fin de cet épisode qui est assez, un règlement de compte plutôt brutal.
Oui.
On se devine qui vient lui, régler le compte, mais on sait pas.
Voilà. Et donc Billy Butcher, il va enfoncer le bouchon parce qu'il va montrer des trucs à petit Yugi que petit Yugi savait mais n'avait pas les images. C'est-à-dire que Stella lui avouait pas mal de trucs, elle lui avouait tout ce qu'elle
certaines bandes enregistrées compromettantes.
Voilà.
Qui mettent à mal la dignité de la dame.
Voilà. Oui, mais il y a des limites quand même.
Ah oui, là on savait pas tout non plus.
Non, on savait pas tout non plus.
D'accord.
Ça n'est pas fait pour adoucir les tensions entre les différents membres des boys.
D'accord.
Mais la mission reste quand même la même, hein, c'est-à-dire tous derrière et puis on y va. Donc retour, on va dire, à plus d'action dans ce numéro 16. Et
c'est pas plus mal.
Jusqu'à la fin, ça va être un petit peu du même acabit. De toute façon, ça reste quand même de la super qualité, ça reste quand même de la super BD. Toujours réservé à des adultes.
Oui, public averti.
Hein,
oui.
Vraiment. Hein, là, il n'y a pas de problème. The Boys, numéro 16 de Garth Ennis et Russ Brown. Comme à la fête foraine, c'est chez Sans Fusion Comics. Ce n'est plus chez Panini. Non.
Oui, d'accord. Ouais.
Et au départ, c'est chez Panini, mais enfin bon, c'est édité. Maintenant, c'est Sans Fusion. C'est une petite déclinaison. Et au départ, c'est chez Dynamite Comics aux États-Unis. Parce qu'on rappelle quand même que au départ, Garth Ennis a proposé The Boys à DC Comics, qu'il a refusé en disant non, vous rigolez, ça va pas la tête, non, vous déconnez, quoi. Non, c'est pas possible, quoi. Et pourtant, on sait que du côté de DC Comics, il y a quand même des bons trucs bien hard-boiled, ça va, quoi. Mais là, The Boys, non, ils en ont pas voulu. C'est pour ça que Ennis est allé voir Dynamite, qui est pas une petite boîte indépendante. Attention, hein, c'est quand même une petite filiale, mais qui n'a que très peu de rapport avec DC. Hein, c'est pour ça, DC garde quand même un petit peu ses billes dedans, quoi, mais peut se défausser au niveau de la politique éditoriale, parce qu'on sait qu'aux États-Unis c'est quand même vachement plus difficile qu'ici, où nous on est un petit peu plus laxiste, on va dire, au niveau de ce genre d'histoire, quoi. Voilà, donc The Boys, numéro 16, comme à la fête foraine. À ton tour de nous chroniquer une petite BD.
On va respirer un petit peu avec un morceau, peut-être, non?
Allez, si tu veux. radio éphémère 89.1 MHz. Vous êtes dans le supplément week-end avec un certain XMD Daskitch qui est absent. Thomas, à ton tour.
Alors, ouais, on va s'attaquer à de la BD franco-belge cette fois-ci avec...
Ça faisait longtemps. Hein.
Oui, alors avec justement les deux... Attends, je règle mon micro, voilà. Avec les deux albums bande dessinée de les deux mastodontes de l'éditeur Ankama de cette rentrée littéraire BD. Donc ça fait quelques semaines aussi que c'est sorti, mais on fait une séance rattrapage aujourd'hui avec toutes les émissions en extérieur. On a accumulé un peu de retard sur les chroniques BD. Donc je commence avec Niurk de Olivier Vatine, tome 1, L'Enfant Noir. Alors il faut contextualiser cette sortie BD puisque Ankama a décidé, sous l'égide d'Olivier Vatine, en partenariat avec l'éditeur Comics Bureau, ils ont dit, tiens, l'univers du romancier de science-fiction français Stéphane Vull, qui était autrefois dentiste et qui s'est reconverti ensuite dans l'écriture de...
Parce que moi, pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était un étranger, Stéphane Vull.
Ouais, et en fait c'est un français. Donc en fait Olivier Vatine est arrivé, il a dit partenariat Comics Bureau Ankama Édition, on adapte tous les albums, tous les romans de Stéphane Vull. Donc on commence par Niurk, donc c'est Olivier Vatine lui-même qui scénarise et qui dessine cette adaptation de L'Enfant Noir, le bouquin de science-fiction d'anticipation de Vull. Donc ça raconte quoi? Ça raconte suite à une catastrophe écologique provoquée par le comportement suicidaire des hommes, les océans se sont asséchés pour laisser place à des terres arides où les survivants se sont organisés en tribus isolées, retournant à un mode de vie primitif. Tiens, je te passe l'album en attendant. La tribu de l'enfant noir est guidée par un vieil homme appelé le vieux. Alors celui-ci annonce que dès son retour de la cité des dieux dans quelques jours, l'enfant, alors il est traité comme un paria, il est noir par rapport aux autres, l'enfant sera sacrifié. Et donc comme le vieux les guide et tout, ben c'est communément accepté. Mais le vieux ne revient pas de la cité des dieux et comme attiré par cette mystérieuse cité, l'enfant décide de s'échapper pour échapper à son sort et pas à la rencontre du vieil homme. Mais ce qu'il découvrira sur les hauteurs de Santiago de Cuba remettra en cause ses croyances et le lancera sur les traces de la vérité de sa propre tribu, elle-même partie en exode. Alors voilà, donc c'est un monde obscur, post-apocalyptique, avec des croyances primitives qui reviennent, et donc une tribu qui vit sous l'égide de ce vieux qui part, et en fait on s'aperçoit que la cité des dieux, ben, c'est juste une cité, c'est juste une ancienne ville, hein, avec un centre commercial et tout, et que le vieux, ben, il allait là-bas en pèlerinage, c'était juste pour remettre à niveau sa collection de bouteilles d'alcool, figurez-vous, il est ramené dans des caddies, qui étaient des objets divins et tout. Et donc, suite à la disparition du vieux, donc on suit parallèlement deux odyssées, celle de l'enfant noir qui part à la recherche de ce personnage, et puis en guise de retour dans sa tribu, il suit les traces de cette tribu partie en exode sous le commandement de Toz, un guerrier qui guide ses frères en quête de nourriture et qui essaye de tenir ses frères à l'écart des monstres, puisqu'il y a des monstres qui se sont créés suite à cette catastrophe écologique post-apo. Donc voilà, donc Moi, j'ai été très emballé par cet album puisque Olivier Vatine est un dessinateur hors pair. De toute façon, les compositions et les coupages de l'auteur, c'est un cas d'école. C'est à montrer dans toutes les écoles de bande dessinée. Une efficacité qui te trouve le cul. T'as des cadrages, des découpages. Genre, à chaque fois, il y a une illustration de pleine page qui ouvre chaque chapitre puisque c'est découpé en chapitres et pourquoi les cadrages sont super impressionnants et efficaces, c'est parce que l'auteur ne cadre quasiment jamais à hauteur d'humain, mais plutôt à hauteur de nature. Donc quand les humains marchent à travers les canyons ou quand ils sont dans la forêt, ben en fait tous les cadrages sont faits pour souligner l'importance de la nature, la grandeur des arbres, la grandeur des canyons, la profondeur des océans, plutôt que cadrer à hauteur d'humain, et voilà. Donc on voit que les humains souvent dans les cases sont assez petits. Et donc c'est une BD franchement qui donne la part belle au décor et qui fait comprendre que les personnages, cette tribu là, ben en fait il est toute petite et c'est pour densifier encore plus les dangers qui les guettent. Alors voilà, c'est un album, un très bel objet, donc avec un maquettage sur la couverture qui fait vieil album déniché dans un grenier avec on va dire un traitement graphique comme les affiches Greenhouse un peu, tu vois, c'est avec un papier déchiré un petit peu sur les côtés, un peu rogné.
Le vieux bouquin qui fait user. Et justement, quand je l'ai pris en main, je me suis dit, mais il est pas tout neuf, ce bouquin, c'est pas possible.
Et non, et au contraire, ouais, il vient de sortir, donc voilà, le premier album inspiré de l'univers de Stéphane Vull chez Ankama, donc c'est le tout premier, c'est celui-là, donc c'est Niurk, le tome 1, L'Enfant Noir, c'est une série qui aura 3 tomes scénarisés et dessinés par Olivier Vatine. Et nous allons enchaîner juste après avec l'autre album qui est sorti en même temps, toujours d'après Stéphane Vull, mais une adaptation d'un autre roman. Cette fois-ci, cet autre roman, il avait déjà donné une adaptation en film d'animation, c'était juste La Planète Sauvage de Topor et Lalou. Donc Homme en série, voilà la couverture, voilà une couverture qui se voit aussi de loin. Donc cette fois-ci, c'est scénarisé par Jean-David Morvan et dessiné par Mike Hawthorne. Le tome 1 s'appelle Terre Sauvage. Donc c'est un jeu de mots puisque Terre, c'est le nom du personnage principal. Alors ça se passe dans un monde de science-fiction également où Tiwa est une drague, alors drague D-R-A-A-G, une grande créature bleue dont le casque censé l'instruire entre par inadvertance en résonance avec le collier de Terre. Alors Terre, c'est un animal de compagnie, sauf que l'animal de compagnie, c'est un humain en fait. Parce que les rapports de domestication sont inversés dans cet univers-là, qui du coup accède aux connaissances des dragues et apprend à lire et à écrire. Alors ce savoir lui est très utile lorsque Terre choisit de fausser compagnie à ses maîtres et prendre part à la rébellion des Homs. Alors les Homs, ici, sont orthographiés O-M-S, pas H-O-2-M-E-S. Alors voilà, déjà adapté sur grand écran, je le disais, en 73 par René Lalou et Roland Topor à travers le film d'animation La Planète Sauvage. Alors cette histoire renverse les rapports, voilà, de domestication concernant les hommes. Alors, ce qu'il y a de bien dans cette BD, c'est que c'est fait de façon intelligente, c'est que jamais il ne nous l'équipe aux commandes de cet album-là ne présente des gentils et des méchants. En fait, c'est comme nous, c'est comme si on faisait une histoire du point de vue d'un chat domestiqué ou d'un chien domestiqué, un animal, par exemple un lapin, qui vivrait dans une cage, ou un oiseau qui se serait pris de sympathie pour son maître, mais qui est quand même dans une cage. Donc voilà, donc là, c'était nous qui étions les créatures de compagnie, d'être plus intelligents, si les rapports de taille étaient inversés, comment est-ce qu'on réagirait? Ben voilà, cette BD apporte son flot de petites réponses. Il y a des discours complètement édifiants où on suit l'un des dragues qui explique la mère qui a donné naissance à deux bébés hommes, au début elle va un peu pleurer d'avoir perdu son bébé, on va un peu la sevrer au début, on va lui rapporter le bébé une fois par semaine, puis deux fois, une fois toutes les deux semaines, puis une fois par mois. Il dit au début elle va chouiner un petit peu, elle va voir qu'il y a un manque et puis finalement elle va s'habituer. Alors évidemment, comme ça concerne des hommes, ça prend un peu au triple lecteur, mais c'est vrai que si on peut dire ça par rapport aux chats aussi, nos chats de compagnie, donc les rapports sont inversés, c'est ça qui fait aussi froid dans le dos, parce que c'est une adaptation assez intelligente et puis un bouquin que je n'ai personnellement pas lu, mais une œuvre de science-fiction à l'origine qui est avec un point de vue assez fort. Donc là, ce qui frappe surtout, c'est l'univers de science-fiction très 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 coloré, très saturé aux couleurs, on va dire des univers de science-fiction des années 60, hein, c'est des dégradés de partout, des rendus très 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 lisses, donc ça peut choquer un peu au début. Les portes, c'est des portes en aplat, comme on pouvait faire dans les films de science-fiction avant, hein, voilà, une couleur, un petit peu d'ombré, et puis voilà, et finalement ça choque pas au bout de quelques pages, tu te dis, ça a quand même le charme des vieilles science-fiction d'antan, et puis ça participe au charme du truc, quoi. Donc voilà, et ça nous porte l'histoire jusqu'à cette fameuse rébellion des hommes à la fin. Donc ça, c'est une série, je sais plus combien de tomes c'est prévu, je crois qu'il y en a deux. Et voilà, donc c'est une histoire assez frappante, assez édifiante. Moi personnellement, j'ai préféré plutôt New York, l'enfant sauvage, parce que c'était pour la densité de l'univers, des paysages. Là, c'est vrai que cet aspect science-fiction un peu vieillotte me parle moins, mais je pense que toi, qui as beaucoup grandi avec cet aspect old school, je pense que ça te parlera plus peut-être et que tu vas plus savourer. Donc
ouais, mais j'allais dire, ça me fait un peu penser au tome 3 de la Ligue des Gentlemen extraordinaires 1969,
oui.
Où ils sont en plein flower power, psychédélisme dans le Londres de cette époque-là, et où vraiment on voit la différence au niveau des couleurs qui pètent, ouais. Pas des fluos mais pratiquement quoi, qui est dans l'époque, hein, en fait, hein, y a pas de problème, justement ça fonctionne très très bien, hein, par rapport aux deux précédents tomes de la Ligue des Gentlemen, qui le premier qui est bien steampunk, qui est situé dans les années fin du 19e, et le deuxième deuxième décade du 20e, qui sont un petit peu plus sombres, un petit peu plus en couleur pastel, et là le troisième on se dit wow, alors là on prend plein la gueule quoi, et ça me fait penser un petit peu à ça au niveau de l'explosion de couleurs, justement.
Ah oui, là c'est sûr que les créatures extraterrestres, ils sont bleus avec des yeux rouges, ils se baignent dans des eaux d'une pureté turquoise absolue. Alors après c'est là que tu vois que le dessinateur c'est pas un manchot, parce que si tu fais des ambiances très propres comme ça, t'as intérêt à ce que le trait suive, hein.
Oui
pour
justement
que ce soit,
non mais bon, là il y a pas de problème, c'est
ouais.
net
là on voit que le mec c'est un chevronné, ouais. Voilà, donc on rappelle la référence Homes en série tome 1 par Jean-David Morvan et Mike Hawthorne, et ça s'appelle ce tome Terre Sauvage, c'est édité chez Ankama Édition, toujours d'après Stéphane Vull. La troisième adaptation de Stéphane Vull est prévue pour je crois début 2013, je crois que c'est au dos de couverture, ce sera le titre, il y a le titre au dos de la couverture, le troisième peut-être, je sais plus. Non, ça c'est la série, je crois que c'est à l'intérieur. Alors bon, c'est pas grave, vous verrez.
Oui, c'est à la fin, c'est comme New York,
voilà.
La peur géante. Non, c'est pas ça. Homes en série prochainement, Homes tome 2. Voilà, c'est tout.
Bon, OK, il y a pas OK, d'accord. Petite coupure musicale pour respirer un petit peu avant d'entamer d'autres sorties BD plus rapides.
Ouais, avec un morceau extrait de la bande originale du film Basquiat.
You think will last, but whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, baby, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is falling in over you, and it's
Vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz et c'est le supplément week-end. On continue avec les bandes dessinées et on retourne dans le monde des comics et de Batman en particulier. Alors, Batman Saga, on en est au numéro 7 qui vient de sortir. Là, toi, tu as entre les mains le numéro 6, c'est-à-dire le numéro de novembre. Et on continue dans cette, c'est pas un arc, c'est une histoire complète hein, qui concerne la cour des hiboux. Alors, depuis le début de Batman Saga, en fait, on se rend compte que les scénaristes, et vous allez vérifier avec le hors-série hein, tout de suite après, eh bien, s'attachent beaucoup à décrire les fondements, l'histoire de Batman et de Gotham, en fait. On peut dire même à la limite que tout ce qui s'est passé avant Bruce Wayne et tout ça, eh bien, c'est pratiquement aussi important que l'histoire contemporaine, hein, c'est-à-dire ce qu'on essaye de décrire. D'un côté, on est dans l'historique, hein, c'est-à-dire pour vraiment poser des bases très très précises à tout l'univers de Batman, de Bruce Wayne et de Gotham. Et de l'autre côté, l'histoire contemporaine, l'action, on va dire, qui va durer sur un épisode, deux épisodes, hein, et qui permet de maintenir un petit peu l'éveil du lecteur. Parce que bon, bah, si on passe à un numéro entier à ne parler que de l'historique de Batman, de ce qu'ont fait les grands-parents de Wayne et les grands-parents des autres grandes familles de Gotham, bon, ça pourrait paraître un petit peu chiant, quoi, aux plus jeunes, quoi, hein, qui aiment bien, qui aient un petit peu d'action, quoi. Alors là, dans la cour des hiboux, dans le premier, dans la première partie du Batman, c'est-à-dire c'est DC Comics, quand, non, c'est Detective Comics, voilà, c'est ça. Là, bien, ça s'améliore un petit peu pour Bruce Wayne, on va dire, qui était un petit peu piégé hein, dans le numéro précédent. Et les autres histoires sont également très très intéressantes, en particulier celle que j'avais soulignée la dernière fois, celle où le scénariste s'attache à développer les rapports père-fils à travers le couple, le duo Bruce Wayne et Damian Wayne. Damian Wayne, qui, je le rappelle, est le fruit des amours pas forcément coupables de Bruce Wayne avec Talia al Ghul, fille de Ra's al Ghul, donc de la Ligue des Assassins, elle qui a été chargée justement par Ra's al Ghul de continuer à ce que la Ligue des Assassins fonctionne. Et Damian Wayne, donc fils de Talia et de Bruce, a bien été élevé dans cette Ligue des Assassins, donc garde un certain état d'esprit qui n'est pas forcément compatible avec l'idée de justice que se fait Batman, Bruce Wayne en l'occurrence. Et donc, eh bien, ça donne lieu à pas mal de conflits, on va dire, que ce soit des conflits personnels, que ce soit des conflits par la parole, par le discours, et même des fois par les actes. Et là, dans le numéro de novembre, eh bien, il y a une petite conclusion à ce qui pouvait paraître au départ comme étant, eh bien, un revirement, un changement de cap radical de la part de Damian Wayne par rapport à Bruce Wayne. On se disait qu'il était en train de passer du mauvais côté, de retourner du mauvais côté. Et peut-être que pas. Non, peut-être que il a bien tuté, peut-être qu'il a bien trempé son monde, le petit Damian. Voilà, ça c'est pour les. Bon, je passe vite fait sur Batgirl, qui est aussi vachement intéressant.
Oui, c'est plus léger, on va dire.
C'est plus léger, mais c'est quand même nettement. C'est quand même à suivre. Moi, j'aime bien. Hein, de toute façon, quoi, ça vaut le coup. Par contre, là, c'est le numéro 1 de Batman Saga hors série. Et là, eh bien, c'est ce que je disais un petit peu au départ, hein, c'est là, eh bien, le titre est sans équivoque, hein. Les origines de Gotham City par Scott Snyder. Scott Snyder qui a été chargé un petit peu de s'occuper du renouveau de Batman, qui se démerde pas trop mal. Et là, bien justement, quoi, je disais que déjà dans les premiers Batman, depuis le début de Batman Saga, bien on en sait vachement plus sur les origines de cette ville, les origines des différents personnages principaux, que ce soit les bons ou les méchants, hein, d'ailleurs, ça, il y a pas de différence. Et là, bien, on va apprendre quelles sont les origines de Gotham City, c'est-à-dire comment Gotham City a été construite, par qui, quels étaient les personnages au départ, hein, c'est-à-dire que bon bah au départ c'est un tout petit patin sur la côte qui n'a vraiment rien d'intéressant et qui bah par la force des choses va être mis en valeur par différentes familles, la famille Wayne, une autre famille, la famille Kane, j'en développe pas trop, la famille Elliot, et ce sont ces grandes familles en fait qui ont développé la ville. Et là bien dans ce numéro, Les Origines de Gotham City, on apprend comment étaient construits les différents ponts, parce que bon, bah, Gotham City, bah, qui est un petit peu le pendant de New York, on va dire, hein. Donc, il y a des rivières, c'est sur la côte, donc, bah, il faut relier les différents endroits. Faut que ça devienne un petit, pour que ça prospère un petit peu plus, eh bien, il faut qu'il y ait les infrastructures qui permettent justement aux bateaux d'arriver pour livrer les marchandises. Il faut qu'il y ait des lignes de chemin de fer qui relient Gotham aux autres villes qui se situent à côté pour pouvoir être également approvisionnés. On apprend d'ailleurs dans Batman Saga que c'est Alan Wayne, le grand-père de Bruce Wayne, qui a... Alors c'est dit très brièvement, hein, on ne sait pas, ça fera peut-être l'objet d'une histoire ultérieure, mais qui a mis la main sur le chemin de fer régional. C'est dit texto quoi dans le Batman Saga, et ça lui a permis justement quoi, bah, d'acquérir une certaine fortune. Hein, donc et dans ce numéro, bien, on s'attend. C'est un numéro en plusieurs parties. Enfin, c'est une histoire en plusieurs parties. Il y a l'histoire contemporaine, en fait. C'est un espèce de fou furieux qui a acheté du Semtex, qui a détourné du Semtex au Pingouin et qui s'amuse à faire sauter les ponts de Gotham. Hein, donc, ça commence bien, quoi. Une quarantaine de morts, plein de blessés, enfin tout ça. Malgré l'intervention de Bruce Wayne, de Batgirl. Alors là, il forme carrément une équipe. Hein, c'est-à-dire, il y a Bruce Wayne, il y a Batgirl, il y a Red Robin, il y a Damian Wayne. Donc, ça fait la grosse équipe, quoi, pour défendre Gotham. Alors que d'habitude, il est tout seul, quoi. Oui. Et là, c'est vraiment le team, quoi. Et puis bon, chacun a son rôle, tac, 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 et tout. On dirait carrément une équipe d'un commissariat, une équipe d'inspecteurs, tous sur une affaire. Et puis bon, toi tu fais ça, et c'est assez bien foutu. Et on apprend pas mal de choses sur les gens qui ont aidé à construire la ville. Et qui sont pas forcément les gens que l'histoire a retenu. L'histoire de Gotham, bien entendu. Et c'est ce qui fait que ça rend le bouquin, enfin ce Batman hors série, très très intéressant. Avec en plus une petite particularité quand même, c'est que pour la scénarisation, parce qu'ils se sont mis quand même à trois. D'habitude, le scénariste, dans un comics, il y a un scénariste, un dessinateur, point à la ligne, et dessinateur, c'est-à-dire le mec qui fait les blancs et tout, et puis ouais, après il y a l'encreur,
le coloriste.
Voilà, c'est ça. Mais au départ, pour la partie écrite, il y a qu'un seul personnage. Et là, bien, ils sont à trois. C'est-à-dire l'histoire est de Scott Snyder et de Kyle Higgins. Les dialogues sont de Kyle Higgins et un petit peu plus tard dans le, parce que c'est en plusieurs parties, il y a un troisième scénariste qui vient se greffer à l'histoire. Donc, ce qui fait que c'est très fouillé. Hein. Il y a quand même beaucoup de détails, beaucoup de trucs très intéressants. En particulier dans la partie qui est située justement quoi dans au 19e siècle et qui parle justement de la genèse de Gotham, de la genèse de la construction des ponts de Gotham et tout. Car il s'agit de ça, des portes de Gotham qui sont en fait les ponts qui peuvent permettre d'arriver jusqu'à Gotham. Bref, un numéro vraiment passionnant. Là, j'ose le dire, hein, c'est vraiment très très passionnant. Si dans Batman Saga, la saga La Cour des Hiboux peut-être en rebuter certains parce que il y a certains passages.
C'est glauque,
c'est un petit peu obscur, on comprend pas tout, on se dit mais où il veut en venir avec ces trucs-là. Bon, on sait toujours qu'à la fin, bon bah, il y a beaucoup de révélations et puis on s'y retrouve quoi. Là, on va dire que l'histoire contemporaine est presque annexe en fait par rapport à l'histoire de Gotham au départ. Et c'est ça qui rend le truc très très intéressant. En plus. Il y a, même si c'est le même dessinateur, la forme n'est pas la même selon que l'histoire est au présent ou au passé. En effet, si tu peux regarder, voilà l'histoire au passé, avec des cases qui sont encadrées.
Des filtres sépia.
Voilà. Le découpage est un petit peu old school, on va dire, hein, plus classique. Ouais. On va dire. Oui, alors oui, que bon, bah, le reste, bah,
oui, c'est déstructuré avec des fonds de pages noires.
Voilà, hein, c'est le truc traditionnel, moderne. Enfin bref, ça vaut le coup, de toute façon, hein. Et, ça n'a qu'un rapport, on va dire, relatif avec l'histoire de Batman Saga, c'est-à-dire qu'on peut lire le hors série sans avoir lu les Batman Saga, le classique, quoi. Donc vous pouvez vous jeter dès lors dessus. Il est sorti le mois dernier, au mois de novembre. Enfin, comme c'est un hors série, il va bien durer 2-3 mois avant le hors série numéro 2. Donc c'est Batman Saga hors série, les origines de Gotham, et c'est par Scott Snyder ainsi que ben les derniers.
Oui, responsable Batman Saga, de l'arc sur la cour des hiboux et ce renouveau de Batman dans cette veine là. Et d'ailleurs, je vois que dans les autres épisodes de ce Batman Saga numéro 6, pas le hors série, mais celui dont tu avais parlé juste avant, en fait, on voit pas mal de trucs gore. Il y a quelqu'un qui a un pied arraché, un cadavre dans de la glace et tout, c'est quand même
c'est très hard-boiled, hein, il y a pas de problème. Alors que paradoxalement dans le Batman Saga hors série, si tu veux, eh bien ça reste un petit en deçà, hein, c'est-à-dire que bon bah c'est quand même relativement violent, hein, il y a ça dépote un petit peu, mais visuellement parlant et au niveau de l'état d'esprit, c'est un petit peu plus simpliste, on va dire, hein, c'est-à-dire bon bah c'est une histoire de vengeance et puis bon il faut trouver qui c'est qui cherche à se venger, de qui, pourquoi, et bon bah dans les actions qui sont commises, je veux dire dans les violences qui sont commises, ça reste dans la limite. J'ai pu le faire lire à mon fils de 11 ans, le hors-série, alors que je ne lui filerais pas les Batman Saga. D'accord. Voilà, vous avez compris un petit peu le niveau. À ton tour, ou...
On respire.
Ouais, on respire. Allez. J'ai rien... Si, j'avais calé quelque chose quand même. Ouais. c'était Andy Burrows. Vous écoutez toujours Radio FMR 89.1 MHz. Il est 13h52. Thomas, c'est à ton tour.
Oui, avec d'autres BD franco-belges. Donc on fait des alternances. Vous avez vu, amis auditeurs, on fait pas de manga aujourd'hui. On fait comics franco-belges. Donc cette fois-ci, c'est
une... Alors une petite précision pour les gens qui prennent comme ça l'émission, qui sont pas au courant, qui connaissent pas trop. Quand on dit BD franco-belge, ça veut pas forcément dire que les
c'est pas gros nez, 48 pages.
Ouais, ce sont pas ça veut pas forcément dire que les auteurs sont français ou belges.
Oui.
Aussi, hein.
Oui, on va dire c'est du format cartonné, plutôt 48 planches, album, voilà. Mais en l'occurrence, c'est pas 48 planches en plus.
Oui, oui, non, mais bon, c'est ça, hein, le format peut varier. Bon, ok, hein, c'est un terme généraliste, on va dire, hein, par opposition, pas par opposition, par différence avec d'autres formes de bande dessinée, telles que le manga, telles que les comics, voilà.
Ou les fumetti, ou...
Voilà.
Alors, donc BD franco-belge, on disait, 72 pages les albums, donc il s'agit d'une série en deux tomes qui s'appelle Luminae, c'est scénarisé et dessiné par Bengal, livre 1, La Dame Perdue, livre 2, La Naissance des Heures, alors c'est une série avec des femmes guerrières sexy en couverture, donc ça pourra aguicher le lecteur qui est fan. Il y a en ce monde des êtres de notre temps sur lesquels repose toute la structure de notre réalité. Ce ne sont ni des dieux, ni des démons. Et sincèrement, je ne sais pas combien il y en a, ni d'où ils viennent. Donc ça, c'est une citation d'un des personnages qui présente ces êtres venus d'ailleurs. L'un de ces êtres, c'est Luminae, une sorte d'ange lumineux au pouvoir dantesque, contrainte de se déplacer en permanence pour échapper aux forces de l'ombre. Elle est protégée par ses six dames, au pouvoir complémentaire. Cette aventure en deux tomes débute ainsi que, alors que l'une de ses dames est portée disparue, qu'un mal inconnu frappe des hommes d'un château qui se change en démon, qu'une jeune fille se retrouve en proie à des bruits assourdissants et qu'une créature maléfique commence à décimer des humains pour préparer l'arrivée d'une entité supérieure. Rien que ça. Voilà, donc vous l'avez compris, nous sommes dans une aventure héroïque fantasy avec des grosses épées, des démons, des zombies, des châteaux forts, des gens qui meurent, des femmes qui se trimballent avec les nénés presque à l'air et en tenue sexy, en string, avec des arcs ou des grosses épées. Donc voilà, du sport, je vois.
Ah bah c'est pour moi ça.
Il a le qui frise. Donc ce qui frappe surtout, ben en fait c'est pas à lire pour l'histoire, parce que l'histoire est assez expérimentale dans le sens où tout n'est pas expliqué là-dedans. On sent, c'est comme si c'était un ersatz ou une suite d'une autre aventure principale, et que cette aventure là que tu tiens entre les mains de deux tomes était suivie d'une flopée d'autres bouquins. En fait, c'est, on dirait que c'est une série avec beaucoup d'autres tomes, et que là on a juste la partie action. Alors c'est ça qui est super intéressant, c'est que il y a un contexte, un background scénaristique qui est absolument, qu'on devine, assez vaste. On a peine à croire que c'est une série qui ne se déroulera qu'en deux tomes. Pourtant, c'est ce que j'ai cru comprendre et ce qui a l'air d'être officiel. Donc, en fait, le scénariste s'est amusé à construire un assez phénoménal pour en ressortir uniquement l'essentiel, c'est-à-dire des bastons avec des nanas à moitié dévêtues contre des démons qui se transforment en zombies. Voilà. On a le système narratif des jeux vidéo d'aventure à tour par tour type Final Fantasy, c'est-à-dire que chaque nana a un rôle assez particulier dans les bastons. Il y a l'archère qui fait des combats, des tirs à distance, une autre qui est plutôt la bourrine, qui va endosser en se mettant en berserker une grosse armure avec une grosse épée, une autre qui est une soigneuse, une autre qui va plutôt ressentir la magie, etc. Donc on a la lanceuse de sorts, la guerrière, la soigneuse. Donc ça, c'est vraiment typique des jeux de rôle, des jeux vidéo d'aventure ou des jeux de rôle de plateau, bien sûr. L'autre truc qui frappe aussi, c'est l'avancée assez prodigieuse de l'auteur dans l'expérimentation au niveau des ellipses et au niveau du découpage. Par exemple, on est quand même dans un format, même si la pagination est assez volumineuse, 72 pages au lieu de 48, on est quand même dans un genre de BD franco-belge quand même, avec ses codes. Et on voit que au niveau des doubles pages, au niveau du découpage, au niveau de la taille de certaines cases, on peut passer tout simplement 10 planches sans dialogue. Et là, tu vois que tu feuillettes, au début, tu dis, ouais, bon, c'est correctement dessiné, c'est assez très nerveux, tu te dis, tiens, c'est à mi-chemin entre le brouillon et la planche finalisée. tu vois qu'il y a certaines cases, et ben il se passe quasiment rien, mais c'est sur deux pleines pages. Tu te dis tiens, pourquoi il a fait ce choix là, et tu vois qu'il est bourré d'expérimentation partout. C'est ça qui fait le vraiment le sel de cette série en deux tomes, et qui fait échapper cette ces deux albums à une série de fantasy lambda. Et alors moi, au début, j'avais été très circonspect en lisant le premier tome, et je me suis dit, mais ouais, bon, les nanas sexy, des démons, Eric Fantasy, des châteaux, bon, c'est pas très original. Et puis en voyant la série en entier, c'est-à-dire juste deux tomes, c'est là que tu te dis, le mec, en fait, il s'est fait plaisir. Je suis bungal, j'ai fait Naja avant, je contacte des éditeurs, je pense qu'il a dû aller dans un éditeur assez fou pour cautionner une série assez expérimentale dans ce cas-là. C'est une série qui obéit à un genre, mais qui s'en affranchit aussi par la forme. Et moi, j'applaudis, parce que franchement, on voit que c'est quelque chose qui sort des sentiers battus, et puis les couvertures sont sympas, tu as un trait qui a beaucoup beaucoup de force, et puis bon, forcément, des nanas aussi peu habillées, moi je dis banco, et puis du sport, c'est pour ça que tu me les as pris aussi direct.
Bah oui.
Voilà, donc Luminae, tome 1 et 2 par Bengal, Ankama édition. Voilà, ben c'est pour ceux qui aiment bien les BD avec des nanas. Alors bon, elle reste quand même en sous-vêtements. Ça va pas plus loin. Hein, si vous attendez plus, bon, faudra repasser. Mais c'est quand même en nana pour le. On se fait plaisir, quoi. Voilà.
Ok, mais les filles qui auraient envie de lire ce bouquin, elles vont quand même y trouver leur compte aussi.
Bah, il faut quand même être fan de grosses épées et de zombies quand même.
Ouais, mais bon,
Eh, voilà, il y en a beaucoup.
Ok, ok.
Et on finit rapidement avec deux autres tomes, et là je passerai moins de temps dessus, pas qu'elles soient moins intéressantes, quoique, mais surtout que ce sont des suites dont j'avais beaucoup parlé déjà des premiers tomes. Donc Remington Arc 2, le Dofus de Calypso, donc ce n'est plus la même équipe que dans le tome 1 qui était... Tot et Adrian, cette fois-ci, c'est Eric Erengel et Dae Jin Kim. Je trouve que cet album, ce deuxième tome, est nettement en deçà du premier, qui était vraiment très orienté, blague à deux balles, humour second degré, mais plutôt qui s'adresse à un public assez jeune, de Remington. Donc c'est une race de roublards, en fait, qui sont engagés par une espèce de dôme chat pour récupérer des bijoux, et ça tourne mal, et l'un des deux frères, le bourrin, en fait, est transformé en chacha. Donc voilà, ça tient, du sport, c'est pour Adrien. Il lira le tome 2. Donc tu verras que la partie graphique est assez surprenante, parce que c'est encore plus, on voit que c'est un album qui a été vite fait, avec un dessin efficace, mais personnellement je préférais quand même le graphisme et le scénario du tome 1. Voilà, Remington tome 2, arc 2 chez Ankama. Et je finis avec Maskman, l'arc 1, donc c'est scénarisé par Tot et dessiné par XZF. L'arc 1 s'appelle Le Masque du Pleutre. Alors par contre, cette série est plus orientée baston, donc c'est toujours dans le cosmos, l'univers transmédia de Ankama, hein. C'est les roublards, les obals ici, donc c'est une caste de personnages qui tirent leur pouvoir de masque magique. C'est une race de personnages qu'on retrouve dans le jeu Dofus, dans le jeu Wakfu, ouais, dans la série Wakfu, ouais. Dans les mangas Dofus, etc. Donc c'est voilà, cross-média, vous y perdez un peu, mais pour ceux qui suivent, il y a une grosse cohérence. Il y a même en tournant l'album au quatrième de couve, on voit un peu un équivalent à la série des donjons, puisqu'on a les numéros des années. On voit quand ça se passe, bilan avant, des années avant, après, etc. Donc c'est dans la collection Wakfu Heroes. On voit le petit logo France 3 Ludo en bas à droite, donc voilà, de l'éditeur Ankama. Donc Maskman, c'est plutôt orienté action, orienté baston, avec plus de la baston sauvage, avec toute la première partie qui se passe dans la neige, avec pas mal de combats, on va dire à l'impact violent, mais il y a un petit peu de sang, mais ça reste quand même de la série. C'est quand même marqué à dos, tu vois. Des dessins comme ça, c'est pas très traumatisant. Il y a des coups qui font mal, mais bon, voilà, ça reste un peu cartoon, un peu BD, on va dire, avec des couleurs saturées, voilà, dessin animé shonen, on va dire, pour parler un peu, pour ceux qui connaissent le manga, voilà, c'est BD de baston, voilà. Maskman, scénarisé par Tot, dessiné par XZF, tu peux le montrer aussi à Adrien, je pense qu'il y aura pas de problème.
Ouais, mais je lis d'abord.
Oui,
contrôle parental.
Oui, contrôle parental oblige. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur ces deux séries annexes et puis s'intégrant dans l'univers Wakfu Dofus de l'éditeur Ankama, et j'en ai terminé avec cet éditeur.
Alors, un petit peu de musique et ensuite on parlera polar et télévision.
Et film.
Oui, 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 oui cuates, 10 mariachis y tequila. Si supieras, vida mía, cuánto sufro en este día. Ya hizo un año que he llorado noche y día. Ya hizo un año y sin embargo hoy te lloro todavía. Ya hizo un año y sin embargo hoy te lloro todavía. Recuerdo esa pieza que era nuestra preferida. Toque en viva mi desgracia y hoy me queda la medida.
Ahí te va, Miguel, nomás no llores.
Buenas noches, me despido. No hay reproches, soy tu amigo. Hasta nunca que te cases y que me eches al olvido.
Buenas noches, me despido. No hay reproches, soy tu amigo. Hasta nunca que te cases y que me eches al olvido. Ya hizo un año que me emborraché 3 días. Ya hizo un año y sin embargo me emborracho todavía. Ya hizo un año y sin embargo me emborracho todavía.
Pouet, pouet, radio éphémère toujours. Et un petit peu de musique, le mariachi. Et c'était Miguel Aceves Mejía et Voy de Mugallo. Ça veut dire une voix de poule, à mon avis, quoi, la traduction, quoi. Enfin, c'est pas sûr, hein. Ok. On parle cinéma à présent.
Oui, regarde mes notes pour le film.
Magnifique. Ça va être vite fait.
Une ligne. Allez, on parle rapidement, mais rapidement parce que le film est sorti il y a longtemps quand même, mais il est toujours à l'affiche. Donc on n'en avait pas parlé, et puis c'est quand même un petit film de SF qui est tout à fait fait pour nous. Donc voilà, on parle rapidement de Looper, le film, le sympathique film de Rian Johnson avec Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt, Piper Perabo et Jeff Daniels. Jeff Daniels, oui, en rôle en contre-emploi dans le rôle d'un patron de mafia, en fait. Donc Looper, le concept, ma foi, assez alléchant. C'est un film qui se passe dans le futur. Un film dans le futur où des gars qui sont payés pour atomiser des gens envoyés d'un futur plus futuriste dans leur époque à eux pour les atomiser. Ils sont payés en lingots. Voilà, donc en fait ça s'explique parce que dans l'époque future encore, d'où sont envoyés les gens qui doivent assassiner, en fait il est très 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 difficile pour des problèmes de traçabilité etc. de se débarrasser de cadavres, donc il les envoie dans le passé. Voilà, et c'est une organisation mafieuse qui gère tout ce trafic. Les gens de l'époque contemporaine du film sont payés pour ça, jusqu'à cette rupture du contrat où je crois que ça s'appelle rebooter le contrat, où en fait on envoie ces tueurs-là du futur se faire exécuter,
se faire dégommer par eux-mêmes.
Voilà, et ça prouve que bon ben voilà, on a dégommé ton contrat, ça veut dire que il avait 30 ans plus que toi, mais il te reste 30 ans à vivre. Et dans le futur, tu vas être alpagué par les mafieux pour t'envoyer dans le passé pour te faire tuer par toi-même. Donc voilà, en gros, le pitch.
D'accord, ok. Et ça permet justement de résoudre le paradoxe temporel aussi, hein, cette histoire d'envoyer dans le passé, quoi.
Voilà.
Hein, parce que sinon c'était ok, mais si je le tue dans le passé, alors il est pas vivant, mais comment il fait pour me tuer, quoi. C'est ça le truc, quoi.
Voilà, exactement. Hein. Ensuite, ça c'est le pitch de base. Le deuxième pitch, ça commence à partir en vrille. Le jour où le gars que doit dégommer le héros, c'est lui dans le futur, sauf que le lui dans le futur, c'est, il a pas été envoyé par les mafieux, c'est lui qui fait le choix d'échapper à des mafieux dans le futur pour aller dans le passé. Et il sait très bien comment éviter le tir. Et là, ça fout la merde parce que quand tu refuses de te tuer dans le futur, tu es la cible des mafieux, forcément. Et sauf que là, le héros doit essayer, parce que c'est quand même quelqu'un qui est obsédé par l'argent au début, et qui va se mettre en point d'honneur à rattraper sa faute, tout en échappant aux mafieux aussi, qui pensent qu'il a fait exprès. Donc voilà, une triple course-poursuite chasse à l'homme. Sachant également, et ça c'est le troisième pitch du film qui s'intègre là-dedans, c'est que le héros du futur, qui est envoyé pour être dégommé par son lui-même du passé, s'échappe du futur pour une bonne raison, c'est parce que il veut absolument que son avatar du passé suive la même voie que lui, parce qu'il a trouvé l'amour, il a rencontré une nana dont il est tombé amoureux, et c'est elle qui lui a sauvé la vie, qui lui a donné un sens à sa vie, etc. Donc là, avec ce pitch-là, on voit que c'est plutôt une histoire d'amour, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est destiné à devenir la version du futur en étant amoureux. Sauf que le jeune, donc incarné par Joseph Gordon-Levitt, la version antérieure de Bruce Willis, donc si vous suivez, n'attend pas du tout de la même oreille que il doit faire des choix prédélimités, même si le Bruce Willis du futur, donc lui du futur, lui dit non, c'est comme ça que doit être ta vie et tout. D'entre lui, il a rien à foutre, lui veut le dégommer et puis faire sa vie. Sauf que le Bruce Willis, il a pas compris que s'il trouve l'amour dans le passé, lui du futur, et ben c'est plus du tout le même, c'est et il sera quand même sauvé, mais d'une façon différente. Et ça, Bruce Willis, le personnage de Bruce Willis, il veut pas l'entendre. Ce serait trop beau si c'était aussi simple, ce film, parce que au bout d'une heure, le film qui était parti, on va dire, sur un ersatz de l'armée des douze singes, un peu revisité avec des tromblons et des gunfights, voilà. Eh bien, ça devient dans un spin-off d'X-Men version Magneto. C'est-à-dire qu'il y a, dans le futur, un gars qui a mis la main sur les organisations mafieuses grâce à ses dons de télékinésie.
Ah.
Et donc, le but du Bruce Willis, ça va être d'essayer de dégommer les trois enfants qui sont susceptibles de devenir ce gars mafieux du futur, parce qu'il va foutre la merde un peu partout, et puis il faut le dégommer et tout. Sauf que Bruce Willis, il va devoir dégommer des enfants de 10 ans, quoi.
Ah.
Sauf que ce qui devait arriver arriva, et ben Joseph Gordon-Levitt, et ben il tombe amoureux de la mère d'un de ses trois gamins, et il va donc essayer de se fighter avec sa version du futur pour protéger un gamin malgré lui, sachant qu'il peut très bien devenir un gros tueur. Voilà. Donc c'est voilà, le film, vous aurez compris, c'est pas un film, c'est pas deux films, c'est trois films en un. C'est un peu là où le bas blesse, c'est-à-dire que le réalisateur Ian Richardson, il a un cœur énorme, il a voulu tout mettre dans un seul film, et c'était peut-être pas une bonne idée, parce que le film commençait comme pendant les 20 premières minutes comme une peinture très très réaliste d'une société futuriste, ou avec des problèmes d'argent, avec une organisation de la société de façon tout à fait crédible, et le film vire ensuite vers une fable télékinésique avec des super pouvoirs qui n'a rien à faire dans ce concept de base. C'est un peu là où j'ai un peu décroché. Les deux parties fonctionnent, mais auraient encore mieux fonctionné si ça avait été deux films complètement différents. Voilà. Donc c'est là que j'arrêterai ma chronique de film. Après, les gens accrocheront au pitch de départ, cette version, on va dire, course-poursuite entre un gars qui est condamné à se poursuivre lui-même. Bon, le concept était alléchant, mais ça aurait été bien que le film se fasse jusqu'au bout par ce réalisateur Rian Johnson. On rappelle les références. Looper de Rian Johnson, il est encore à l'affiche, mais dans certains horaires et dans certaines salles seulement, avec Bruce Willis, donc qui incarne le personnage principal du futur, Joseph Gordon-Levitt qui incarne le personnage principal du futur, mais dans le passé par rapport à l'autre, Emily Blunt, Piper Perabo et Jeff Daniels.
Ouais, juste un mot sur Joseph Gordon-Levitt, hein, qu'on a découvert dans Troisième Planète après le Soleil. Donc la sitcom, hein, avec comment il s'appelle de nouveau, John Lithgow, quoi, Jane Curtin, enfin bon, excellent, French Stewart également, et qui a joué dans un film de Greg Araki qui est vraiment très dur, très difficile. Alors ça, c'est un rôle où il a été remarqué, je pense, parce que bon, le sujet est un sujet très trash, c'est la pédophilie. Et le film est absolument bouleversant, renversant. Ça s'appelle Mysterious Skin de Greg Araki avec entre autres Joseph Gordon-Levitt. Et là, dans ce film, il est carrément géant, quoi. Mais bon, c'est un film qui est très dérangeant. Hein. C'est bon, le sujet est vraiment on imagine ce que c'est. Et là, ça va vraiment très très loin. Bon, Greg Araki a l'habitude d'aller très loin dans ses films. Et là également. C'est pas au niveau de l'image, mais au niveau du ressenti que ça va très très loin, que c'est très très fort.
Ouais, c'est une génération d'auteurs comme Larry Clark qui sont dans cette veine-là de peinture de l'adolescence sans tabou.
Voilà, ouais. Enfin bon, là c'est un petit bien plus l'histoire de suggestion, on va dire, qui fonctionne très très bien chez Greg Araki, alors que chez Larry Clark c'est plus dans le visuel. Que ça fonctionne. On passe maintenant vite fait à un polar. C'est un polar, on va dire. C'est David Peace, dont je vous avais chroniqué 44 jours.
Extraordinaire.
Qui s'est paru chez Rivage, les autres livres de Peace sont également parus chez Rivage, même les bouquins qui sont intérieurs à 44. Je vous avais dit en vous chroniquant 44 jours que il était parti au Japon, vivre à Tokyo et continuer à écrire des bouquins, qui racontent un petit peu l'histoire du Japon contemporain. Et là, on a Tokyo année zéro de David Peace. David Peace est un auteur qui a une écriture très très particulière, très spéciale. Alors si dans 44 jours on arrive à peu près à s'y faire, parce que le livre est écrit pratiquement à la première personne, c'est Nigel Clough dont on suit l'entraîneur de Leeds puis de Sheffield.
Brian Clough,
dont on suit l'histoire. Donc ça apparaît un petit peu plus cohérent. Là, c'est un petit peu moins cohérent, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'accrocher, vraiment suivre.
Et puis Brian Clough, c'était d'après un fait réel.
C'est une histoire réelle. Hein, oui. Là également, si tu veux, quoi. C'est des faits réels. Qui ont été romancés. Alors, juste un petit extrait comme ça, quoi.
Non, mais t'as des images en plus.
Ouais. Non, mais c'est chaque fois, chaque tome, chaque chapitre, pardon. Alors, des drapeaux tombent sur le sol, mais ces drapeaux ne sont pas des drapeaux. Ces bâtiments ne sont pas des bâtiments. Ces rues, pas des rues. Car cette ville n'est pas une ville. Ce pays n'est pas un pays. Je mange des glands, je mange des feuilles, je mange des mauvaises herbes. La voix d'un dieu à la radio, terne et triste. Tout est difforme. Les cieux, un abîme. Le temps est fracturé. L'enfer est notre séjour. Ici, maintenant. 10 minutes après midi, le 15e jour du 8e mois de la 20e année du règne de l'empereur Showa. Mais cette heure n'a pas de père, cette heure n'a pas de fils, ni mère, ni fille, ni épouse, ni maîtresse. Car c'est l'année zéro. L'année zéro. Tokyo, année zéro.
D'accord.
Extrait, page 34 de ce bouquin. Alors, deux choses. D'une part, c'est un polar. C'est-à-dire que le personnage principal, c'est l'inspecteur Minami, qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que les bombes ont explosé sur Hiroshima, sur Nagasaki, et l'histoire commence. Alors, c'est l'extrait que je viens de citer, est situé dans le temps juste après que l'empereur Hirohito ait déclaré à la radio que le Japon capitulait. Donc, tout le texte est retranscrit, d'accord, et on comprend que au départ Hirohito était considéré comme un dieu, c'est-à-dire que il n'a pas adressé la parole au peuple. Et là, c'est la première, on va dire le premier truc qui est énorme pour l'ensemble du peuple japonais, c'est que Hirohito va parler dans la radio, donc va s'adresser au peuple. Alors déjà, bon, c'est une grande première. D'autre part, c'est donc, je le dis, la fin de la Seconde Guerre mondiale au Japon, qui s'est arrêtée plus tard, s'est arrêtée en août 45. Tokyo est complètement dévasté, les bâtiments sont détruits, bref, c'est un truc en ruine. Le peuple ne mange pas à sa faim, c'est magouille et compagnie, chacun se démerde pour trouver des trucs, il bouffe tout et n'importe quoi. Le trafic a repris ses droits, c'est-à-dire que, bien sûr, il y avait déjà des gangs avant la guerre et ces gangs continuent à faire tourner un petit peu l'économie. C'est d'ailleurs eux qui, paradoxalement, font mieux tourner l'économie et permettent aux gens de bouffer et de travailler que ne le font les autorités qui sont complètement inféodées aux Américains. Et dans ce bouquin, ce qui est très intéressant, c'est la description du Japon, donc, et de Tokyo en particulier. à partir de ce moment, de ce moment-là. Et parallèlement, hein, pour qu'il y ait quand même une petite histoire qui soit intéressante à suivre, eh bien l'inspecteur Minami, qui est le personnage principal, qui est pareil, qui est gris, il n'est pas blanc, il n'est pas noir, on ne sait pas. Il y a des trous.
Mais non, il est jaune.
Il y a des zones. Il y a des zones d'ombre dans sa vie, dans son passé, dont on ne saura d'ailleurs pas beaucoup plus à la fin du bouquin. Mais bon, ça ne gêne pas trop. Et il doit résoudre une enquête. Plusieurs cadavres ont été trouvés dans le parc, dont un qui n'est plus qu'un squelette. Et à chaque fois, bon bah, c'est le même genre de cadavre, le même genre de corps, le même genre de meurtre. Donc, eh bien, on est sur la piste d'un. Enfin, ils essayent d'être sur la piste de retrouver un serial killer, c'est-à-dire le même mec qui a tué plusieurs jeunes filles. Et au fur et à mesure de l'enquête, on se rend compte c'est-à-dire que assez rapidement dans le bouquin, ils arrivent à trouver qui est le coupable. Le coupable avoue. Le coupable est forcé d'avouer, on va dire, hein, parce que à l'époque, les méthodes étaient un petit peu plus brutales. Ouais. Il n'y a pas de description de la méthode, hein, simplement quoi. Il décrit simplement la scène en disant ils sont rentrés à 6 torse nu dans la pièce là où était Kodairo, c'est-à-dire le mec qui veulent faire avouer. Et scène suivante et tout, c'est l'inspecteur principal qui dit c'est bon, il a avoué. Ok, ouais. Tu te dis d'accord. Mais par contre, si l'histoire policière est très très intéressante, ce qui est plus intéressant quand même, c'est le rythme d'écriture de David Peace, qui est complètement atypique, hein. C'est-à-dire que c'est pas une écriture linéaire et tout. Il y a beaucoup de, le texte en principal, mais il y a beaucoup d'italiques et d'italiques qui veulent signifier l'ambiance dans laquelle se retrouvent les personnages ou carrément les sentiments qu'expriment les personnages, avec beaucoup de redondances, beaucoup de redites, mais qui sont voulues, hein, c'est-à-dire que c'est pas chiant, c'est peut-être chiant au départ quand on comprend pas bien le style d'écriture qu'a David Peace, mais une fois qu'on est rentré dedans, il n'y a pas de problème, ça fonctionne à fond les manettes.
C'est déjà un système qu'il avait utilisé dans 44 jours, avec ce système italique et ce système d'écriture normale, puisque ça pourrait expliquer le passé et le présent aussi.
Oui, mais là c'est un petit peu différent, parce que c'est fait pour les pensées des personnages, les petites manies, les obsessions, et c'est là que le bouquin est vraiment très très intéressant. Alors il y a beaucoup d'expressions en japonais, c'est ça aussi qui est très bien. Et il y a quand même un glossaire à la fin pour nous expliquer à quoi correspondent les différents termes japonais qu'il emploie, hein, c'est normal. D'accord. Quoi. Alors il y a des trucs qui sont vachement marrants, quoi, parce que il y a une expression qui est très souvent dedans. Alors c'est la fin de la guerre, donc l'hygiène laisse tomber. Il y a beaucoup de gens d'enfants qui meurent de malnutrition, qui meurent de maladie parce que les hôpitaux, il y en a pratiquement plus, les gens peuvent pas se soigner, il y a plus de pognon et tout. Et puis il y a cette expression que j'aime bien qui dit gari gari, et en fait parce que le personnage principal, l'inspecteur Minami, il écrase, des fois il reste pendant 48 heures sans rentrer chez lui, voir sa femme, ses gosses et tout, donc il pue, enfin tout le monde pue, il y a vachement de ressenti, hein, c'est-à-dire que quand il prend des transports en commun, bien sûr, ils ont pas de voiture, hein. Il prend les transports en commun pour se rendre sur les lieux de l'enquête, où il prend le bus, où il prend le train, où il prend le métro. Il y a la promiscuité, les gens qui puent, les odeurs, enfin les trucs comme ça. Les gens qui prennent le métro, mais encore de nos jours, ça se sent, hein. Même si des fois les odeurs sont pas les mêmes, hein, même si des fois c'est le parfum qui pue, quoi. Et là, gali gali, c'est l'expression du bruit des ongles sur la peau quand on se gratte. Et en fait, ils se grattent tout le temps, quoi. Et alors pour bien retranscrire ce truc, on a gali gali, je me gratte et je me démange, ça me démange, je me gratte. Vous avez
pensé au personnage de Soil, le capitaine Yoko?
Tout à fait. Ouais, j'ai eu un truc aussi, où je me suis dit, il y a un petit truc comme ça, quoi. Qui pique à l'autre, on sait pas, quoi. Mais enfin, c'est pas
important de mesure, de toute façon. Un code de présentation pour dire que ça pue ou qu'on est sale,
quoi. Tout à fait.
Parce que peut-être mal vu de se gratter là-bas aussi.
Ouais. En tout cas, le livre est absolument excellent, hein. Il n'y a pas de problème. On y apprend beaucoup de choses sur ce qui se passe, hein, c'est-à-dire qu'il y a une documentation, la bibliographie à la fin du bouquin, tous les bouquins qu'il a dû se taper pour justement coller au plus près de l'actualité de l'époque, c'est quelque chose. Et il y a y a même le plan, hein, tu vois, quoi, au début, quoi, il y a quand même un plan des endroits où il va et tout, pour que tu te retrouves. Et il y a également un truc que j'ai pas compris au départ, et c'est vers la fin qu'on comprend, c'est-à-dire qu'à la fin de, au début de chaque chapitre, avant, il y a une page comme ça, une page écrite, mais avec des descriptions, et tu suis pas, parce que bon, bah, c'est coupé à la fin de la page, tu vois, c'est coupé, il y a pas de fin de phrase, et tu te dis, bon, bah, ça s'arrête, bon, pourquoi? Et au fur et à mesure des chapitres, ça continue comme ça. Et alors là, bon bah, ce qui est raconté là-dedans, c'est hyper trash. Hein. C'est je gis parmi les cadavres, corps mouillé, air fétide, le mouchoir ensanglanté de la colonne Nokia, un nouveau cri, nouvel applaudissement quand Shimizu a son client, la cloche du dîner retentit. Enfin, tu es là, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et au bout du compte, à un certain moment dans le bouquin, tu dis ah ben voilà, d'accord, j'ai compris. Ça correspond à quelque chose de très spécial. Bon, je vais pas vous dévoiler, je vais vous laisser le précipice de la surprise quand même. Ce n'est pas super important dans l'histoire de David Peace, dans l'histoire de l'inspecteur dans l'enquête. Mais par contre, ben ça a quelque chose à dire. Ce n'est pas placé là n'importe comment. J'ai pas voulu remplir les pages comme ça, histoire de faire un gros pavé. Non, pas du tout, quoi. Ça a une utilité, quoi, qu'on découvre assez tard dans le bouquin, vers le deuxième tiers, à la fin du deuxième tiers du bouquin. Donc vraiment, David Peace, hein, moi c'est un auteur que je conseille à beaucoup de gens, mais attention, faut déjà être un petit peu dans les arcanes de l'écriture, avoir l'habitude un petit peu, parce que c'est quand même des fois un petit peu rebutant au départ, quoi, hein, si c'est pas du tout l'écriture traditionnelle, hein, de toute façon. Donc c'est David Peace, Tokyo année zéro. Là c'est l'édition brochée Rivage Thriller, mais c'est également paru dans l'édition un petit peu plus petite, hein, c'est-à-dire les Rivages Poche, qui coûte un petit peu moins cher. Enfin bon, celui-là j'ai pas eu cher, donc ça va, quoi. Il y a pas de problème. Du coq à l'âne, on passe avec la télé. Ben oui, il est 13h25 déjà sur Radio Éphémère 89.MHz. Alors on va faire très très court. En ce qui concerne les nouvelles chaînes de télé qui vont arriver, alors c'est des chaînes de la TNT à souligner, hein, il y a quelques chaînes qui sont disponibles sur la TNT et d'autres qui seront disponibles sur tous les réseaux qui peuvent exister, hein, que ce soit réseau ADSL, que ce soit Numericable, Canal, Sat, j'en passe et des meilleurs. Ça va être, c'est des chaînes qui ne sont pas dans des options payantes, dans des bouquets, on va dire, hein, comme on appelle ça, mais qui vont être disponibles pour tout le monde. Mais seulement pour certaines régions, il va falloir attendre un petit peu plus, c'est-à-dire que ça va se développer au fur et à mesure de fin de cette année. Donc ça démarre mercredi prochain, avec trois nouvelles chaînes, puis trois autres chaînes qui seront disponibles un peu plus tard, et ça va aller jusqu'à la fin de 2014 pour couvrir l'ensemble du territoire français. Il y a la troisième chaîne de M6 qui s'appelle MTR. Il y a entre autres RMC Découverte, qui est un petit peu comme National Geographic avec des reportages et des trucs comme ça, ainsi que deux chaînes qui sont HD, c'est-à-dire visibles avec les décodeurs haute définition et tout, quoi. Mais on peut également les avoir sans décodeur haute définition ou sans télé HD, hein, d'accord. Voilà, ça c'est pour ces nouvelles chaînes. Donc si vous zappez comme ça, ne vous étonnez pas si vous trouvez des nouvelles chaînes sur votre truc, hein, d'accord. Alors du côté des séries, bien une mini-série qui est la suite, on va dire, des Piliers de la Terre, hein, cette mini-série qui avait été tirée des bouquins de Ken Follett, qui a écrit là un gros pavé qui s'appelle Le Monde sans fin, un monde sans fin, et qui est situé 200 ans après les Piliers de la Terre.
C'était Ridley Scott, le Pilier de la Terre, qui était derrière.
C'est toujours produit par Ridley Scott, hein, c'est toujours produit par sa maison de production, elle s'appelle Scott Free. Ouais. Et donc, c'est 200 ans après, la construction de cette cathédrale de Knightsbridge, qui est une ville imaginaire en Angleterre, hein, qui n'existe pas. Et là, 200 ans après, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a quand même le monde qui a un petit peu évolué. On est toujours dans le Moyen Âge, hein, c'est la fin du Moyen Âge. Bon, les gens commencent à être un petit peu moins cons, mais moins cons au niveau connaissances scientifiques et tout ça, quoi. Hein, pas cons. Comme la mort, quoi, bien sûr, quoi. Et là, dans ce monde sans fin, c'est pareil, on a décidé de foutre le paquet au niveau du budget, quoi. C'est de la mini-série en 8 épisodes, donc
avec un casting qui tue, bien entendu. Ça a été tourné, comme le précédent Épilier de la Terre, à Budapest, en Hongrie, hein, décor naturel et tout le truc, mais on en a pour son argent, avec Peter First, avec Miranda Richardson, Indira Varma, Auratika, Cynthia Nixon, Ben Chaplin, ben les gens passent, c'est les meilleurs, hein, mais bon, le casting, ça va, il dépote, et c'est bien entendu télédiffusé par Canal+, c'est à partir de jeudi prochain, 2 épisodes, jeudi prochain à 20h50, donc de ce monde sans fin.
Et qui remplacera Les Revenants, c'est ça?
Non, Les Revenants, c'est diffusé le lundi.
D'accord.
Sinon, bah, justement, je parlais de nouvelle chaîne HD1. HD1, donc, la chaîne s'appelle comme ça, donc tous les programmes sont à haute définition.
D'accord, il n'y a pas de thématique à part que ce soit
un
HD.
Non, j'ai regardé un petit peu le programme, hein, donc ça commence mercredi prochain, il y a un petit peu de tout, on va dire, mais il y a des inédites, il y a des séries inédites, dont cette série, hein, qui s'appelle Panam. Alors, pour les plus anciens d'entre vous, vous connaissez, vous savez ce que c'est Panam, hein, c'est une compagnie aérienne américaine, dans les années 60. Dans les années 70, ça va nous raconter le quotidien des hôtesses de l'air. Alors, bien entendu, le casting est pratiquement entièrement féminin.
Très bien.
Avec Margot Robbie, Christina Ricci, Kelly Garner, Karine Vanas, bref, on peut jeter un coup d'œil, c'est à partir de jeudi prochain, 20h50. Autre série complètement inédite et qui peut s'avérer intéressante, c'est diffusée par June à partir de mardi prochain, 20h40, ça s'appelle Heart of Dixie. Alors Heart, c'est H-A-R-T, et non pas Heart, H-E-A-R-T, c'est-à-dire oui, le cœur de Dixie. Alors Dixie, bien entendu, on sait ce que c'est.
Comme le gardien anglais, quoi.
Voilà, Heart, ouais. Parce qu'en fait, c'est le nom de famille de l'héroïne principale. Et Dixie, bien sûr, ça représente le sud des États-Unis, hein, par opposition au nord. Et ça raconte l'histoire d'une nana qui est chirurgienne et qui doit partir du nord, de New York ou d'une grande ville, pour se retrouver à faire son boulot en Alabama, dans un patelin paumé, dans un trou paumé. Alors bon, bah ça va raconter. Alors d'une part, c'est une série médicale, hein, comme Grey's Anatomy, comme Urgence, machin, bien que ça ne se passe pas uniquement dans un hôpital. De l'autre part, eh bien ça va raconter un petit peu les différences culturelles qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui vient, on va dire, d'un pays civilisé, d'une ville civilisée, dans le trou du cul de l'Amérique, en Alabama, où il y a que des pecnos, des mecs qui ont guns et qui ont une façon de penser radicalement différente de ce qui se passe dans les villes du nord-est des États-Unis. Bon, ça peut se regarder, il n'y a pas de problème. Donc c'est sur June, à partir de mardi prochain, 20h40, donc les deux premiers épisodes. Zoé Hart, l'héroïne principale, est interprétée par Rachel Bilson. Et on a également, surprise, c'est le renouveau. On se disait, bon, bah c'est fini, ok, on a passé de beaux moments, les jeudis sur TF1, les jeudis soirs, comme ça, quoi. Et puis, bon, maintenant, les filles ont grandi, elles ont un métier, je vois plus le rapport.
C'est non, quoi, la famille, non, pas la famille formidable, Julie Lescaut.
Eh oui, c'est Julie Lescaut. C'est le retour.
Oh, mais non, mais.
C'est le retour de Julie Lescaut. En plus, on se disait qu'elle était grillée, quoi, parce que bon, après ces termes, après ces sorties un petit peu.
On ça va tombe dire, bien, j'ai les tennis jeudi.
Ouais. C'est sorti un petit peu islamophobe à la télé. Oui. Bon, on se disait ok, elle est plus ou moins grillée, quoi. Ouais. Hein. Bah non. Je pense que ça a été tourné avant, quoi.
Avant.
Il y a pas de problème.
Oh, ils auraient pu tourner avant et pas le diffuser.
Non, c'était F1. Hein. Ouais. D'accord. Alors donc c'est le nouveau et tout, avec toute une équipe complètement différente. Hein. Bon, c'est peut-être là qu'on peut.
Ah ouais, il y a plus Damari du coup. Hein.
Non. Mais bon, mais il y a plus personne. Hein, je veux dire, elle a une équipe d'inspecteurs complètement. C'est des petits jeunes. Hein. Il y a plus personne qu'on connaissait d'avant, quoi. Hein. Sinon, il y a toujours ces deux filles, Babou, et puis.
Tu connais, hein, quand même.
Moi, je suivais. Hein. Ah bah oui, bah quand même, quoi. Des films maintenant à la télé ce soir sur Canal+ Cinéma. Alors bon, des films, ouais, pas que en fait, parce que ce soir sur Canal+ Cinéma à 20h45, c'est une rediff. La première diffusion, c'était mardi dernier, je crois. C'est Crossfire,
Hurricane, c'est un documentaire de Brett Morgan, tout neuf, hein, 2012. Et ça, un documentaire qui nous raconte l'histoire des Rolling Stones. Parce que Crossfire Hurricane, tout le monde, enfin les gens qui connaissent les Stones, savent que c'est les paroles, les débuts, les pratiquement les premières paroles de la chanson Jumping Jack Flash. I was born in a Crossfire Hurricane. Voilà, non, première parole assez... de Jumping Jack Flash.
Okay, ok, d'accord.
Alors, c'est pour ça que le documentaire s'appelle comme ça. Quelqu'un qui travaille dans cette radio, d'ailleurs, a vu ce documentaire et a été complètement époustouflé par la qualité de ce documentaire. Et c'est très récent, hein, donc on avait parlé déjà du bouquin de Keith Richards qui était sorti, dans lequel il y avait pas mal de révélations et tout. Et ben là, c'est pareil, hein, on est vraiment dans le présent, c'est-à-dire ça fonctionne. Sinon, sur France 4, c'est également une rediffusion à 22h45 ce soir. L'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, ce documentaire qui a été fait par un Français, Gaël Leblanc, qui a suivi Usain Bolt pendant pratiquement une année. Alors, c'est un documentaire qui a été tourné l'année dernière, l'année où justement il a un petit peu foiré sa saison.
Oui, quand il avait fait le faux départ là.
Voilà, voilà. Ben ça démarre pratiquement avec le faux départ. Et là, on va suivre le quotidien de Usain Bolt, son entraîneur, ses partenaires d'entraînement, dont James Blake. Oui. Hein, puisqu'ils s'entraînent ensemble, quoi. Oui. Et là, ben vraiment, on est bien dedans. Usain Bolt, il a ouvert sa maison. Il y a beaucoup de d'interviews des parents, de la mère, du père et tout ça. Donc c'est vraiment très très intéressant comme discours. Bien que à la fin, on reste un petit peu sur sa fin. Quant au personnage lui-même de Usain Bolt. C'est-à-dire, est-ce qu'il a vraiment beaucoup de profondeur? On ne sait pas trop. Hein. On sent qu'il y a quand même eu une certaine limite entre le réalisateur du documentaire et Usain Bolt et son entourage. Bon, il a quand même pu aller très très loin. C'est-à-dire, il va dans des endroits où normalement personne ne peut aller. Il va dans sa chambre, il est allé dans la maison de ses parents. Donc, le documentaire vaut vraiment le coup. Et puis bon, voir Usain Bolt à l'entraînement, c'est quelque chose et tout quoi. Le mec il gerbe et tout quoi à la fin de l'entraînement systématiquement parce que bon, il a tout donné. Bon, c'est quelque chose quoi. Disons que on se rend compte que ok quoi, il est arrivé là où il est arrivé. D'accord.
Oui, et puis tu vois, c'est pas quelqu'un qui est en show permanent comme on voit dans les meetings. C'est quelqu'un qui bosse aussi et qui tombe le masque quoi.
Il tombe le masque et puis bon, on le sent vachement naturel déjà dans les rapports qu'il a au public. Bon, il fait pas tout le temps son Lightning Bolt et tout. Bon, ok, il peut être très chaleureux, très amical et tout. On le voit mixer dans des soirées. Bon, c'est pas mal, c'est vraiment très très bien. Hein. Vraiment, le documentaire est super. Donc c'est ce soir à partir de 22h45 sur France 4. Sinon sur Civi ce soir à 20h45, il y a Coraline de Henri Selick, le film d'animation quoi, qui est pas mal, un petit peu, qui est un peu, on va dire, ça fait. Ça peut faire peur aux plus jeunes, hein. Donc vous faites quand même un petit peu attention, mais c'est quand même pas mal.
C'est d'après Neil Gaiman, non, je crois. Il y a un gars comme ça qui a travaillé dessus, mais ça, il faut que j'aille vérifier ça.
Ouais.
Ça avant la fin de l'émission.
Voilà. Alors sinon, sur Ciné Plus Émotion également ce soir à 20h45, un Spielberg dont personne ne parle jamais. C'est-à-dire quand vous demandez à n'importe qui de vous citer quelques films de la filmographie de Spielberg, celui-là, vous l'aurez jamais. Ça, il n'y a pas de problème, parce qu'en plus, c'est un remake d'un vieux film des années 40. Et c'est un film qui est absolument magnifique, parce que il n'y a pas beaucoup d'action, c'est un mélo. Hein, c'est vraiment un mélo traditionnel, on va dire.
Mais c'est la couleur propre?
Non, pas du tout. Hein, c'est Always.
Richard
Dreyfuss, Holly Hunter, et le film vraiment, moi j'aime bien quoi, hein, l'histoire de ce pompier aérien, hein, puisque c'est un pilote de Canadair, hein, qui va éteindre les incendies de forêt. Bon, on va pas vous dévoiler l'histoire, mais enfin bon, c'est quand même vachement bien. Demain soir, Full Frontal entre TF1 et France 2, et là avec du lourd quand même. Alors moi je pense que France 2 va gagner quand même. Parce que entre Le Seigneur des Anneaux sur France 2 et Robin des Bois de Ridley Scott sur TF1,
Là c'est du full frontal. Ouais. Seigneur des Anneaux, mais il le passe la version courte, j'imagine.
Ah, j'ai pas regardé, j'ai pas vérifié le.
Donc ça veut dire que vous savez ce que vous allez faire les deux prochains dimanches, puisqu'ils vont diffuser le 2 et le 3, j'imagine.
Ouais, peut-être, ouais. Mais manque de bol, on l'a déjà vu, quoi.
Ben ouais, tout le monde l'a déjà vu, hein.
Ah ouais, eh ouais. Alors sinon, sur France 3, et ça, j'ai pas eu le temps de vous en parler, parce que bon, bah, comme vous l'a expliqué Thomas, en début d'émission, on n'était pas souvent dans les studios, quoi, ces dernières semaines. C'est dommage, parce que sur le cinéma de minuit de France 3, qui commence à minuit 25, minuit 30 généralement, mais pas à minuit, eh bien là, c'est un cycle Fritz Lang, et donc ça vaut le coup, hein, c'est le cycle Fritz Lang américain, avec des bons petits polars, dont ce soir, demain soir à 0:25, House by the River, tourné en 50, sorti en 50 par Fritz Lang avec Louis Hayward et Lee Bowman entre autres. Demain sur 13e rue à 20h45, le dernier rôle de Steve McQueen, c'est le chasseur de Bruce Kulick, de Buzz Kulick, avec également Elie Wallach et LeVar Burton, Data dans Star Trek, mais également Kunta Kinte bien sûr dans Roots, et c'est d'ailleurs ce rôle qu'il avait révélé à l'époque qu'il a fait jouer dans ce chasseur aux côtés de Steve McQueen.
Tiens, en parlant de Star Trek d'ailleurs, il y a le teaser du nouveau film de J.J. Abrams.
Oui, je sais.
Into the Darkness.
Oui, je sais. J'ai entendu quelqu'un chez moi en parler.
Oui, c'est vrai.
Sur Polar. Sur Polar demain soir, Kinjite, sujet tabou de Jack Lee Thompson avec Charles Bronson et Perry Lopez, où on est également dans un, à l'époque c'était sorti en 88, qui parle d'un sujet un petit peu glauque également, hein, l'histoire d'un type qui fait prostituer des adolescents, enfin bon ok, mais heureusement Charles Bronson est là, donc il n'y a pas de problème. Et sur FX, alors là c'est un film qui était sorti en 1985 et qui faisait suite à cette mini vague qui avait lieu. Bon, maintenant on est en plein dedans, hein, avec Twilight et toute cette merde, on est en plein dedans, hein, dans les vampires, c'est cool, True Blood, je sais plus quoi encore, enfin bon, toutes ces séries, mais à l'époque, bon, c'était
Vampire Diaries aussi,
ouais, à l'époque, au début des années 80, fin des années 70, il y avait eu Hurlement, il y avait eu des très 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 bons films, hein, le Loup-garou de Londres et des trucs comme ça, hein, qui popularisaient le film d'horreur, qui faisait que le film d'horreur devenait un petit peu grand public. Et il y a cette petite curiosité qui était assez rigolote, hein, on va dire, hein, qui s'appelle Vampire, vous avez dit Vampire, Tom Holland, avec Chris Sarandon et William Roxell, une histoire de type qui est tranquille chez lui, et puis au bout d'un moment il se dit putain, mais mes voisins c'est des vampires, enfin je sais pas trop ce qu'ils foutent, mais c'est pas possible. C'est assez rigolo, quoi, mais c'est quand même vachement trash, hein, c'est quand même du moins 12, mais bon, il y a vachement d'humour dedans, donc ça vaut vraiment le coup. Moi je sais qu'à l'époque, moi j'avais bien apprécié, quoi, c'était vraiment très 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 bien. Lundi
Coraline s'est bien inspiré de l'œuvre d'un bouquin de Neil Gaiman qui était publié en 2002 et qui s'appelle aussi Coraline, voilà.
Eh ouais, mais bon, comme JB n'est pas là, quoi, JB aurait immédiatement sursauté, hein, et nous aurait immédiatement renseigné. Alors lundi sur TF1 22h35, c'est la case de New York Unité Spéciale. Alors bon, il n'y a plus d'inédits, hein, de nouvelle saison, mais par contre au niveau de la rediffusion, vous pouvez regarder les deux premiers de cette les deux premiers épisodes rediffusés de la soirée, puisqu'il y en a trois généralement par soirée, ça commence à 22h35. Les deux premiers, eh bien, c'est de la saison 11, c'est La Beauté des Flammes et Carte sur Table. Mais par contre la particularité, c'est que eh bien il y a quand même en guest star Sharon Stone, qui joue le rôle de l'assistant du procureur et tout, et qui est vraiment très crédible dans ce rôle là c'est pas mal, c'est pas dans ces séries, les séries instillées par Dick Wolf, quand on met un guest star, quand on met quelqu'un dans cette série, c'est pas juste pour dire regardez, j'ai un guest star de luxe, non, c'est parce que le personnage a une consistance et parce que l'acteur généralement se démerde aussi pas mal, quoi. Et là Sharon Stone est tout à fait crédible, donc si vous ne les avez pas vus, quoi, c'est de la saison 11 de New York Unité Spéciale, lundi donc sur TF1 22, à partir de 22h35, plutôt 22h50, hein, avec le tunnel de pub qui fout généralement. Sur Canal Plus Cinéma lundi également 20h45, Cadavre à l'appel de John Landis, film anglais, hein, tourné en Écosse et dont l'action se passe en Écosse au 19e siècle, avec Simon Pegg, Andy Serkis, Tim Curry, Christopher Lee, bref, une histoire de mecs qui détroussent des cadavres, qui déterrent des cadavres, enfin bon, pour alimenter
une faculté de médecine, quoi. Enfin bon, c'est le début, quoi. Hein, hein, c'est John Landis à Simon Pegg, donc vous doutez bien que ça va partir en couille. Sur Canal+, décalé, alors je vois pas le rapport, mais enfin bon, ok, c'est un film avec des requins, ça s'appelle Shark 3D. Mais bon, regardez la 3D à la télé, je sais pas comment vous allez faire, hein, c'est vous que ça regarde. Mais bon, c'est quand même lundi. Et puis bon, comme ça, un film avec des requins, je le cite. Ok.
Ça me rappelle que à l'approche de Noël, tu vas encore nous faire notre cette fameuse programmation spéciale avec des animaux, des bêtes, des chiens, mais pas que.
Tout à fait. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors sur Arte lundi, alors là c'est pas mal parce que t'as d'abord à 20h50, alors un des grands classiques, hein, du cinéma américain, des très très bons War Dogs, c'est l'impossible Monsieur Bébé avec Catherine Hepburn et Cary Grant, le film de 38. Mais après, juste après, à 22h30, c'est la diffusion de La Première Folie des Monty Python. Et le film qui date de 1971, ce fameux film où on voit tous les sketchs des Monty Python, et entre chaque sketch, t'as les trucs animés par Terry Gilliam, tu sais, les espèces de collages et tout ça, quoi.
Oui, oui.
Alors donc, là, vous avez le truc, le bloc tel qu'il était sorti à la BBC à l'époque, quoi. Allez, à l'époque, on avait d'abord sorti les différents sketchs qui étaient insérés, et ensuite, on avait fait un bloc qui avait été diffusé d'un seul bloc, donc sur la Bible, avec justement ces petits inserts, ces petites virgules de Terry Gilliam pour que ça fasse, bon, linéaire, quoi, on va dire, quoi. Enfin, si ça peut être linéaire avec Monty Python.
Oui.
Ok. Donc c'est à 22h30 lundi, quoi. Ça ira pour lundi. Mardi, Paris
Première. Je crois que c'est une rubrique légère aujourd'hui.
Ouais. Non, mais j'en ai fait toute une pile, alors je vais un petit peu sabrer. Mardi, sur Paris Première, à 22h55, The Big Doll House.
Ah oui.
Yes. Alors ça, c'est le premier. D'accord, hein, de cette série de films de femmes en prison, Women in Cages. Alors dans The Big Doll House, alors c'est tourné par le même mec, hein, Jack Hill. Il a tourné tous les films ensemble, dans le même endroit et avec des histoires un petit peu différentes, avec les mêmes acteurs et actrices.
Et les mêmes prisons.
Et donc c'est Judith Brown qui est le personnage principal. En fait, c'est une nana qui se fait arrêter à la frontière de l'Amérique. C'est situé en Amérique latine, hein, l'histoire, et elle se fait arrêter à la frontière parce que bon bah je sais pas, elle a passé de la drogue, je me rappelle pas exactement. Donc elle se fait foutre en prison, elle se retrouve en prison avec deux autres nanas dans la même cellule, dont Pam Grier et Roberta Collins. Alors donc il y a une nana qui est une Pam Grier joue le rôle de la révolutionnaire, hein, c'est-à-dire qu'elle a été emprisonnée parce qu'elle veut libérer son pays. Roberta Collins, on sait pas trop, bon bah c'est une prisonnière de droit commun, mais on sait pas trop parce que en fait il y a une balance dans la prison. Et bon, c'est assez rigolo à voir, quoi, de toute façon, quoi, ça vaut le coup. Après il y a eu le Big Bird Cage et un troisième dont je me souviens pas du titre, dans lequel Pam Grier joue le rôle de la matone. Et là c'est nettement plus intéressant parce que bon, il y a quelques petites scènes qui sont un petit peu gratinées. Voilà. Ça vaut le coup, quoi. Mais celui-là aussi vaut le coup, c'est assez rigolo à voir. On a également sur TCM mardi prochain à 22h40 La Nuit du Chasseur de Charlton, donc gros classique et tout, quoi. Bon, le bouquin il est tout pourri, quoi, mais le film il est magnifique, hein. C'est un des grands classiques du cinéma, avec Mitchum, avec Shelley Winters, Lillian Gish, Peter Graves qui joue le rôle du petit gamin, Peter Graves, hein, Mission Impossible.
Oui, tout à fait, c'est Jim Phelps, oui.
Monsieur Phelps, quoi, donc. Donc
qui, tout ça, qui est mort, non, depuis.
Ouais, tout ça, c'est sur TCM, donc mardi prochain à 22h40. Mercredi, sur Action, un remake d'un film qui avait été tourné dans les années 30, 35, film allemand.
Sur Action, mercredi, bon, ça, et va pas
ça
être
s'appelle pré-gégé. À l'Ouest, rien de nouveau. Ah, oui. Là, c'est la version de Delbert Mann en 1979 avec Jan Holm et Robert Thomas. Alors, le livre à l'époque de Eric Maria Remarque, qui s'appelle Am West Nicht Neues, à l'Ouest, rien de nouveau, raconte, l'histoire de quatre soldats de la pendant allemand. Qui sont très jeunes, ils sortent du lycée et ils se font enrôler dans l'armée allemande pour combattre donc pendant la Première Guerre mondiale. Et donc ça raconte leur quotidien sur les tranchées. Et le bouquin est absolument renversant. C'est un bouquin qui a eu énormément de succès. C'est un bouquin qui, contrairement à ce que voulait faire Eric Maria Remarque, eh bien a un petit peu aidé à alimenter la polémique et a aidé un petit peu indirectement à ce que Hitler puisse propager ses idées. Par rapport à la défaite de l'Allemagne et la spoliation des biens allemands et tout le bordel, bref. Mais c'est moi, c'est un bouquin qui m'a bouleversé à l'époque. La première version est excellente aussi. À voir cette seconde version, ça vaut peut-être son pesant de cacahuètes. Jeudi, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a surtout du Steven Seagal sur 13e rue avec Rendez-vous en Enfer.
En classique un peu là.
Rendez-vous en Enfer à 20h45, film canadien de Loro Chartrand avec Steven Seagal et Dan Badaro, suivi à 22h20 du Prix du sang de Jeff King avec Dmitri Shepovetsky et Robert Wisdom. On a également, et là ça vaut peut-être plus le coup, sur Ciné plus Frisson, toujours jeudi prochain à 20h50, le Dog Pound de Kim Chapiron qui est sorti deux ans, donc ça vaut le coup. Sur Planète No Limit, jeudi prochain, Xavier, si tu nous écoutes, c'est pour toi, c'est un magazine culturel qui s'appelle Plus ou Moins Geek. À 20h45, avec entre autres comme chroniqueurs, alors ils sont 4 ou 5, hein, mais j'ai pas noté tous les noms parce qu'il y en a, je connais pas, je connais juste Rurik Salé parce que je sais que c'est un type qui travaille pour Mad Movie, entre autres, il y a également François Descroc, donc, et qui nous font des petites rubriques et tout, magazine, donc, mais qui a à tendance geek. Vendredi, on termine avec sur France 2, eh bien, un inédit dans la case polar du vendredi soir sur France 2, Un Flic. Alors bon, bah, on connaissait déjà, là c'est un inédit hein, qui est tout récent, La Veuve Noire avec Alex Descartes dans le rôle principal, et on peut dire, même si les histoires, bon, des fois c'est un petit peu irréaliste, hein, ça, c'est du flic français mais qui tend vers le polar américain un petit peu, avec un petit peu bourrin, mais l'interprétation est excellente et les histoires généralement sont toujours vachement bien foutues, bien ficelées, donc c'est à voir quand même. Sur Arte, le vendredi prochain également à 20h50, Just Like a Woman de Rachid Bouchareb, cinéaste français, mais ça c'est un film américain, et avec Goldshifteh Farhani, Sienna Miller, Tim Guinée et Roj Dizem. Et c'est le premier film d'une trilogie que Rachid Bouchareb, une série de trois films, parce que les films n'ont rien à voir entre eux. Mais en fait, la thématique, c'est les rapports du monde arabe avec les États-Unis actuellement. Donc y a pas de problème, y a de quoi faire. Et donc pour ce premier film, c'est le premier film donc actuellement Bouchareb est en train de faire de tourner ou d'être en repérage pour le second, avec entre autres Forest Whitaker déjà, donc ça va, il y a pas de problème hein. Puis bon, là déjà Roj Dizem, moi c'est un acteur que j'aime bien. Sienna Miller.
Oui.
Hein, la copine ou l'ex de
Jude Law. Ouais.
Ouais, bon, c'est nouveau l'ex, d'accord. Okay.
Sienna Miller, bah, c'est celle qui avait été trompée par Jude Law.
Oui,
ils s'étaient remis ensemble.
Oui, ils s'étaient remis ensemble à un moment, quoi.
Bah, tu suis toi un peu là.
Ouais, mais là, ça date hein, quand même. Hein.
On apprend des trucs, hein. Tu suis Julie Lescaut, tu suis les potins concernant Sienna Miller et Jude Law. Je te savais pas comme ça. Hein.
Ah bah ouais, puis encore, je vous ai pas raconté la fin de La Reine des Sourds.
Ah oui, non, mais ça, on savait, d'accord, mais ça fait partie des trucs déviants, un peu.
Ok. Hein. Non, mais je m'attendais à cette fin, en plus, quoi. C'est ça qui est trop, quoi. Bon, enfin, bon, c'est quand même pas mal. Sinon, vendredi prochain, il y a également sur RTL9 à 22h30, pour regarder Just Like a Woman, Rachid Bouchareb. Là, pour vous dire, ok, ouais, c'est cool, je me cultive, et puis bon, j'ai bonne conscience par rapport à ce qui se passe et tout. Puis après, vous regardez. Et
après, tu te fais plaisir.
Ouais, tu te fais plaisir, 22h30, risque maximum, des poursuites en R5.
Très bien,
risque maximum. Des poursuites en bagnole en R5 et tout, dans Nice, avec Jean-Claude Van Damme.
Et Jean-Claude Van Damme qui a encore un frère jumeau et qui se tape Natasha Henstridge dedans, qui est très très bien aussi.
Ah ouais, ah ouais.
Sur un billard, je crois.
Ah
d'ailleurs.
Ouais, ah ouais. Il y a pas de problème. Sinon, il y a également sur Action vendredi prochain une corde, un Colt. Je crois que c'est le premier film qu'a réalisé Robert Hossein, avec Robert Hossein également, bon, c'est Western Spaghetti, avec la très magnifique Michel Mercier, Angélique et Serge Marquand. Ou sinon, le grand classique pour terminer, classique du polar, c'est tiré d'un bouquin de David Goudis, mais c'est également un excellent film, je crois que c'est le premier film de Truffaut en fait, c'est Tiré sur le pianiste, avec également la première apparition à l'écran, si je me trompe pas, de Charles Aznavour dans un rôle absolument excellent. C'est un des grands chefs-d'œuvre du polar français, hein, y a pas de problème quoi. Et puis bon, c'est un Truffaut en plus. Et bah, il me reste 10 minutes pour préparer la programmation pour passer de la musique à 14h.
Voilà.
Et par contre, on va quand même lancer
la musique du générique.
Ouais, mais une fois que j'aurai fermé la page, quoi.
Attends, je retrouve mes notes aussi.
Vas-y, quoi. Hop, il faut cliquer là-dessus, puis ensuite, il faut appuyer là-dessus, quoi.
À la rentrée du sport, découvre Ubuntu, attends.
Non, mais j'avais ouvert plein de pages.
J'avais ouvert des onglets, puis putain. Ah, très bien. Alors vous écoutez toujours Radio FMR, il est donc on l'a dit 2h-10, du sport on n'a plus le temps pour préparer la programmation musicale, mais non d'un Batman Gore, ils ont manqué, il y a certains qui ont pris l'émission en cours de route, donc je me fais la question moi-même, Thomas peux-tu faire le résumé?
Ah bah oui, ça serait une bonne idée ça.
Eh ben je fais le résumé du coup. Alors on avait dans cette émission des trucs qu'on sait pas et qui sont pas sûrs, des boys avec le retour du sexe et de la violence, Stéphane Vull en BD, du Batman et des hiboux, des nanas à moitié à poil, des grosses épées et des zombies, trois films en un avec du passé dans le futur, des garigari, les gens cons du Moyen-Âge, des hôtesses de l'air, du sport qui suivait Julie Lescaut, on en apprend des belles dans l'émission, un requin en 3D, du geek, et oui il faut bien les quotas tout ça, et des petits potins. Alors, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites. Laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web suppléments-weekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, dans le prochain épisode, ce sera le retour de Xavier. Nous espérons avoir les organisateurs de Toulouse Game Show pour nous faire un petit débriefing de la grosse manifestation. Nous aurons également, et peut-être, je dis bien, du Soil. On sait pas, hein. Peut-être qu'il fera caler l'interview. Xavier doit faire la traduction simultanée par-dessus à la polonaise. Du sport, je sais pas ce que tu auras, toi.
Ah, il y aura au moins un polar, de toute façon, quoi. Ouais. Un vieux polar que je suis en train de relire, hein, que j'ai lu il y a très très longtemps, qui date des années 70. Mais, qui est terrible, terrible, qui est un grand, pour moi, un grand classique. Alors, un petit peu de musique enregistrée pour aller jusqu'à 14h, hein, le temps que je cale quelques disques et que j'arrive à vous faire une programmation un petit peu cohérente, on va dire.